Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
16h44, on a sonné, je crois, à la porte. On
va regarder
qui sonne à la porte. C'est Julie Jourdan. Julie Jourdan, gérante pour Ample et Gestes, elle arrive. Ben, entrez, Julie, venez. N'hésitez pas à nous rejoindre, effectivement. Vous avez invité pour le club à 17h, mais vous venez un petit peu en avance. On en est ravis. On va profiter de votre présence, du coup, un petit peu plus longtemps. Bonjour, Julie. Bienvenue. Ça va?
Ça va bien, merci.
Bienvenue sur le plateau. Voilà, c'est l'invité décalé, l'invité en avance. Elle a un coup d'avance, effectivement, à un peu moins d'un quart d'heure de 17h. Vous êtes ici en avance et on va profiter de cette présence, donc, pour se parler avant que les autres invités de la suite n'arrivent. Et se parler peut-être un peu plus intimement, Julie, vous êtes prête?
Allons-y.
Voilà. Mmh. Pour ceux qui nous suivent à la radio, Julie est bien là.
Oui, je confirme, elle est là.
Donc, spécialiste des marchés actions américains, on le disait, Julie. Gérante action américaine pour Ample et Gestes. Intéressante cette semaine américaine. Et notamment dans la tech. On a encore les publications hier soir de Microsoft, plus 2%, c'est salué. D'Alphabet, plus 10%, c'est plus que salué. Alors que Meta et Tesla, au contraire, ont bu le bouillon. Leurs publications ont été largement sanctionnées. Est-ce le signe que, ben, finalement, on n'achète plus toute la tech désormais et que le marché est peut-être en train d'entamer une phase de normalisation?
Écoutez, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a une année 2023 qui était exceptionnelle pour les mégatechs. Là aussi, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'investisseur? Qu'est-ce qu'ils cherchent, les investisseurs américains? Et quand on regarde, en 2023, ils cherchaient la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ils cherchent toujours des sociétés qui affichent de la croissance, une belle visibilité globalement et des perspectives et ne pas être déçus. En 2023, on avait des taux qui étaient assez élevés, et on avait l'émergence de l'intelligence artificielle et ces mégatechs qui étaient en capacité de financer et d'afficher des perspectives de croissance tout à fait solides.
Donc tout montait à l'époque, tout montait.
Toutes ces sociétés.
Une marée montante.
Exactement, en ont largement profité et on l'a vu, hein, puisque on le sait, ça a été commenté plein de fois. Bah, le S&P 500, hors des valeurs des Magnificent Seven, ne montait que de 12% quand les Magnificent avaient des hausses qui combinaient. Étaient globalement d'à peu près 100% et ont impacté de manière extraordinaire, en fait, la performance des indices américains. Donc ça, c'est ce qui s'est passé effectivement en 2023. En 2024, les investisseurs, ils cherchent toujours la même chose, c'est-à-dire de la croissance, de la visibilité dans un environnement qui reste incertain. Alors certes, on pensait qu'on allait avoir... on a eu des discours de la Fed qui nous ont dit qu'ils allaient infléchir leur politique. Mais là où on pensait qu'on allait avoir cette baisse de taux, bah, finalement, on n'en attend plus qu'une, deux peut-être. Donc c'est vrai que ça a évolué. Et dans cet environnement-là, eh bien, on est exigeant. Donc Meta, typiquement, hein, on l'a vu hier... Les capex vont être supérieurs, le chiffre d'affaires devrait être un peu inférieur. On n'est plus prêt à payer la même chose. On attend, on est exigeant par rapport à l'IA, les résultats, le côté concret. Est-ce que ça va générer enfin des revenus?
Oui, Meta qui recule encore d'ailleurs aujourd'hui de 0,8%. Est-ce que ça signifie que l'emballement autour de l'intelligence artificielle, l'emballement un peu aveugle, on va dire, est fini et que les investisseurs commencent à privilégier peut-être même d'autres secteurs?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on regarde, on commence à avoir effectivement une moindre concentration des performances d'un point de vue sectoriel. Donc ça se diffuse, la performance. En même temps, quand on regarde au réel à l'intérieur des secteurs, on voit bien que ça reste très concentré. Je prends le secteur de la tech, Nvidia, 67% de hausse. AMD, 4% de hausse. Je parle à hier, hein, parce qu'effectivement... Dans la santé, c'est très concentré. On parle des Lilly, on a quelques autres acteurs comme Merck qui affichent des belles performances. Dans l'industrie, c'est celle qui bénéficie des méga-trends, le reshoring, la transition énergétique qui en profite. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Ce que l'on constate, c'est que aujourd'hui, effectivement, les investisseurs sont plus exigeants et ils cherchent les sociétés qui ont des avantages compétitifs réels.
Ça veut dire qu'il y a un retour du stop picking. En fait, on est là à sélectionner puisque l'environnement, comme vous le décrivez très justement, est très exigeant avec maintenant on est passé de 7 de baisse de taux à plus que 2 voire 1 et donc on retourne au stock picking, on n'achète plus toutes les 7 Magnificent comme en 2023 en fait.
On passe en fait d'un stock picking sectoriel ou lié à la capacité à générer du free cash flow comme ce qui a été le cas l'année dernière à un stock picking qui fait que dans un même secteur on va distinguer différentes les valeurs, les grands gagnants, ceux qui ont des avantages concurrentiels réels, ce que nous on appelle chez Ample Geste le pricing power, c'est-à-dire ces sociétés qui vont avoir un savoir-faire, une expertise, une avance technologique qui les rend incontournables pour leurs clients ou pour leurs fournisseurs. Et ça, on rentre dans une phase, il faut encore que ça se confirme, attention, on va voir, c'est quelque chose qui semble émerger, mais c'est quelque chose que nous, on trouve effectivement extrêmement intéressant parce que, en tant que gérant, c'est là où aussi on peut créer de la valeur.
C'est là votre intérêt aussi en tant que gérant, c'est de sélectionner les valeurs que vous trouvez pertinentes. Dans un environnement plus adverse, c'est là où vous avez vraiment votre valeur ajoutée.
D'autant plus qu'effectivement, c'est vrai que rechercher ces valeurs qui ont du pricing power, c'est dans notre ADN. Donc, c'est vrai que ce que l'on cherche...
Mais il n'y a pas des ETF pricing power, ça n'existe pas. Parce que vous êtes gérante active, vous défendez aussi votre paroisse. Mais voilà, il y a des ETF pricing power en face ou pour le coup, c'est une ligne de nage dans laquelle vous êtes certaine de rester à peu près seule. Vous êtes vous, les gérants actifs, certains de rester à peu près seuls face à la gestion passive.
Écoutez, à ce stade, il existe des fonds croissance, il existe des ETF croissance sur le pricing power. Je n'en ai pas encore vu, mais la liste est toujours très longue, donc je ne connais pas forcément.
Et s'ils existent, vous n'allez pas nous les faire découvrir non plus.
C'est pas votre intérêt.
Non, mais c'est intéressant là. On est peut-être sur une bascule à Wall Street qui devient un peu plus exigeant, effectivement, même en matière d'intelligence artificielle. Sur Meta, notamment, la baisse d'hier qui se confirme, -0,8% encore aujourd'hui. Meta. Puis à l'inverse, quand une entreprise parvient à monétiser sur l'IA, c'est salué. Microsoft aujourd'hui, très belle publication, Microsoft gagne 2,8%, puis Alphabet gagne quasiment 10%. Alors Alphabet, en plus, ils annoncent un premier dividende. Vous êtes pleinement convaincu par ces deux valeurs, Microsoft et Alphabet, qui ont publié hier après la clôture.
Tout à fait. Alors c'est deux valeurs que l'on détient en portefeuille. En ce qui concerne Alphabet, c'est important de voir l'évolution de la société. Parce que ce qu'on reprochait souvent à Alphabet, c'est finalement de ne pas montrer qu'ils étaient très rigoureux sur leur capacité à maîtriser leurs coûts, de ne pas être extrêmement favorable au retour aux actionnaires, d'avoir une croissance qui était solide sans être extrêmement agressive. Finalement, tout ce que Facebook, enfin Meta maintenant, faisait assez bien et très bien et ce qui avait marqué finalement l'année de l'efficience comme l'appelait Meta en 2023. Là, le discours semble changer. On a une société qui a annoncé un premier dividende. Il est faible, mais c'est un premier pas.
C'est symbolique.
C'est symbolique et ça va dans ce sens de montrer aux actionnaires effectivement qu'ils maîtrisent leurs coûts. Ils envisagent des retours aux actionnaires sous forme de dividendes et de programmes de rachat de titres, puisqu'ils ont également annoncé un programme de rachat de titres de 70 milliards. Et puis, par ailleurs, c'est une croissance qui accélère, 15%. On était à 13,5 le trimestre dernier. On parle de 80 milliards. On parle de sommes colossales sur le trimestre. C'est la publicité également qui accélère, que ce soit sur YouTube ou sur leur site. Donc voilà, on a un groupe qui est en bonne santé financière.
Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ce titre Alphabet en hausse de 10% aujourd'hui. Alors, il y a mieux à Wall Street. Vous êtes sur Snap, je crois, Julie. Non, vous n'êtes pas sur Snap. Snapchat.
Oui.
Chiffre d'affaires. Vous êtes sur Snap pour le
moment. Non, j'utilise pas Snap. Non plus.
Donc.
Mais je sais, mais non.
Eh bien, le titre gagne 22% aujourd'hui, Snap. Après un méga premier trimestre, vraie surprise, le chiffre d'affaires qui progresse très très nettement, ça les marchés n'avaient pas vu venir, et Snap, donc le titre Snapchat en bourse, gagne à Wall Street 22%. C'est l'un des cartons du jour.